Ce matin, ça tombe bien parce que ce matin, j'avais envie de pouvoir parler de la bénédiction et de la malédiction. Alors, je le ferai en toute simplicité. Comment peut-on attirer la bénédiction sur sa vie et au contraire, comment peut-on repousser la malédiction? Et je crois que c'est une question qu'on se pose tous. Finalement, dans nos vies, est-ce qu'on n'est pas tous en train de rechercher la bénédiction et d'éviter la malédiction? Alors, avant d'aller plus loin, je crois que c'est utile de préciser un peu ce que c'est que la bénédiction. Je pense qu'il y a, dans la Bible, on voit en tout cas deux sens à la bénédiction. Il y a d'une part ce qu'on peut recevoir, toutes les bonnes choses qu'on peut recevoir. Peut-être avant d'entrer dans une définition biblique de la bénédiction, quand on pense à bénédiction, à quoi ça vous fait penser? Si jamais quand vous passez devant la caméra, ça ne vous sert à rien de vous baisser parce que de toute façon, on vous voit. Donc voilà, la caméra est ici, le seul moyen c'est de faire le tour, si vous voulez être par dehors, si vous ne voulez pas qu'on vous voit. Donc de toute façon, on nous voit, on est observé, filmé. Quelqu'un écrivait un jour « Big Brother is watching you ». Aujourd'hui, il aurait écrit « Google est en train de t'observer ». La bénédiction, on la recherche. La bénédiction, quand on pense à la bénédiction, ça peut évoquer tout un tas de choses dans nos esprits. La santé, la richesse, la paix, de bonnes relations avec les autres, des enfants qui grandissent en s'épanouissant, une maison, un bout de terrain, une belle voiture, un compte en banque bien garni, manger des produits bio, la reconnaissance. On pourra allonger la liste, hein. Peut-être que vous avez une conception de la bénédiction qui est encore très différente de ça, mais en fait la bénédiction, c'est simplement avoir des choses qui sont bonnes, qui nous font du bien. Et à l'inverse, la malédiction, eh bien, c'est obtenir, recevoir des choses qui nous font du mal. La maladie, la pauvreté, les disputes, l'absence d'enfants, un petit studio miteux dans lequel habiter, des pâtes à tous les repas. Et bien sûr, c'est quelque chose que nous n'avons pas envie, c'est quelque chose que nous évitons. Et chacun, pour cela, pour éviter cela, fait du mieux qu'il peut. On va tous essayer d'utiliser des stratégies pour obtenir des bénédictions, des choses qui sont bonnes, et éviter des malédictions, éviter des choses qui sont mauvaises. Alors on va mettre, pour obtenir ça, on va mettre l'action sur ce qui nous semble le plus important. Si la reconnaissance, c'est ce qui est le plus important pour nous, c'est la plus grande bénédiction, eh bien on va tout faire pour obtenir cette reconnaissance de la part des autres. Si au contraire, savoir pouvoir rouler dans une belle BMW, on va tout faire pour pouvoir rouler dans une belle BMW. Si c'est être en paix avec les autres, on va essayer de construire une vie dans laquelle on sera en paix avec les autres. Et on a tous remarqué que dans notre monde, il y a des causes à effet. Il y a certains comportements que je vais avoir qui vont apporter une bénédiction dans ma vie et il y a d'autres choses qui vont apporter une malédiction. Alors, on pourrait penser de nouveau là à tout plein de choses. Si on veut pouvoir gagner sa vie, avoir de quoi subvenir à ses besoins, travailler apportera beaucoup plus de bénédictions que de voler. Là, on peut voler pour subvenir à ses besoins, mais ça va entraîner des malédictions dans notre vie. Alors, ce n'est pas toujours les malédictions auxquelles on pense. Des fois, quand on dit « Ah, vol, le jour où le gars il se fait pincer, ben, il est foutu. » Oui, bien sûr, il est foutu le jour où il se fait pincer, mais déjà même avant, quand on vole, on a des problèmes de conscience, on doit mentir pour cacher ce qu'on a fait, ça crée des troubles dans nos relations. Et il y a tout un tas de malédictions qui sont liées à un mauvais comportement. Et c'est étonnant de voir que dans notre monde, pour obtenir des bénédictions, on est obligé de faire ce qui est juste. Parce que dès qu'on fait ce qui est injuste, les bénédictions qu'on pourrait retirer, eh bien, elles sont empreintes de malédictions. Ça va jusque-là, vous me suivez? Oui. Et ça, je me dis, mais c'est génial. C'est génial que pour obtenir une vraie bénédiction, qui soit durable, qui soit entière, qui soit que bénédiction, eh bien, il faut que ce qu'on acquiert, ce qu'on obtient, se fasse avec justice. Ça paraît banal, mais il n'y a rien dans notre monde qui laisse supposer ça. On pourrait tout à fait imaginer un monde où on pourrait obtenir de vraies bénédictions de manière injuste. Mais je crois que ça nous montre que Dieu a créé le monde et qu'on a un Dieu qui est juste, qui est foncièrement bon et qui veut que la bonté soit entièrement bonne et qu'elle ne soit pas mélangée à ce qui est mauvais. Alors si le principe paraît assez simple, en théorie, hein, il faut faire ce qui est juste pour être béni et éviter de faire ce qui est mauvais pour éviter la malédiction, ça devient un peu plus compliqué quand on essaie de le mettre en pratique. Pour plusieurs raisons. Et peut-être la première, c'est de savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Exemple. Imaginons un couple marié depuis une quinzaine d'années, il y a une certaine routine qui s'est installée. Et bon, voilà, les sentiments ne sont plus les mêmes qu'au départ. Maintenant, tout d'un coup, monsieur ou madame, choisissez, rencontre une jolie jeune femme et, bah oui, elles sont toujours jeunes, hein, ma foi, je suis désolé, et son cœur commence à battre pour cette jeune femme. Il commence à se désintéresser de son épouse et il commence à s'intéresser à cette jeune femme. Quel est le bon choix à prendre? Est-ce qu'il doit suivre son cœur et aller vers cette nouvelle femme ou est-ce qu'il doit rester avec son épouse? Alors j'imagine, parce que je sais que vous êtes tous chrétiens, vous avez tous un bagage chrétien avec vous, j'imagine que vous avez très facilement répondu à cette question. Et pourtant, c'est une question qui est vraiment difficile. Parce que si, mettez-vous à la place de ce qui se vit dans la société, où l'amour est réduit à un sentiment, à une émotion, qu'est-ce qui est juste à faire? Est-ce qu'il faut rester contraint par un lien historique, mais qui n'est plus vécu dans le présent? Ou est-ce qu'il faut suivre son cœur pour aller vers quelqu'un d'autre? Et c'est un choix qui n'est pas facile. Je lisais récemment un article People sur Hugues Aufray. Vous connaissez, hein? C'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau. Il chante toutes des chansons comme ça. C'est un monsieur qui a 91 ans. Et puis, dans cet article, il dit allègrement, eh ben, l'horloge biologique de la femme et de l'homme ne sont pas la même, donc ma femme reste ma femme, mais j'ai choisi de vivre avec une femme plus jeune. Hey. Et bah oui, vous pouvez aller voir, hein, c'était sur Blue In. Et je pense qu'il y a des questions comme ça qui ne sont vraiment pas simples. Qui sont vraiment pas simples. Et peut-être que cet exemple-là ne vous parle pas, peut-être qu'il y en a d'autres qui vous parlent, ou des fois on est face à un choix et on ne sait pas quelle est la bonne décision à prendre. Pourtant, si on prend un peu de recul dans un cas comme ça, on imagine bien que le divorce, la séparation, va causer des problèmes. Encore plus particulièrement s'il y a des enfants qui sont là au milieu. Hein, on peut imaginer une famille divorcée quand il y a le mariage des enfants qui arrive, on revoit son ex accompagné d'une autre, il faut faire bonne apparence durant le mariage. On peut imaginer aux rentes qui sont à payer. Alors, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, je sais que c'est en train de changer, mais quand il faut payer une rente parce qu'on s'est divorcé, payer pendant toute sa vie, quand il faut avoir des réunions de famille qui sont compliquées. Et je ne suis pas en train de jeter la pierre à qui que ce soit. C'est juste des fois, on est dans le moment, dans une situation, on ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal, et pourtant si on prenait un peu de recul et puis qu'on avait un autre regard sur la situation, les choses seraient beaucoup plus claires. Et c'est qu'un exemple devant tout d'autre. Quel job choisir? Comment tisser des amitiés? On sait que pour s'attirer la bénédiction, il faut faire le bien et il faut éviter de faire le mal. Mais qu'est-ce que le bien? Et est-ce que le bien est défini par ce que fait le plus grand nombre? Et je crois que face à toutes ces questions, nous avons besoin d'une direction qui vienne d'ailleurs, d'une direction de la part de Dieu. Et nous allons lire un texte, deux textes, en Deutéronome, chapitre 4, versets 5 et 6. Voici, je vous ai enseigné des prescriptions et des règles, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique dans les pays, dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les respecterez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, ils diront « Cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. » Et on voit que Dieu donne une loi à son peuple qui est différente de ce qui se fait ailleurs, en tout cas sur certains points, et qui doit susciter, lorsqu'elle est mise en pratique, l'admiration des peuples qui sont autour. Mais, bien sûr, hein, il faut la mettre en pratique pour que ça suscite l'admiration, parce que des belles théories, le monde en est rempli. Et c'est ce qui nous conduit à notre deuxième texte, Deutéronome 11, versets 26 et 28. « Regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. » Deutéronome 11, versets 26 et 27. « Regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. » Et ça, je crois que c'est quelque chose que Dieu met constamment en face de nous. On a devant nous le choix entre la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrit aujourd'hui pour suivre d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. Et c'est un texte qui est absolument fondamental si on veut comprendre comment s'attirer la bénédiction de Dieu et l'éloigner, mettre en pratique la loi de l'Éternel. Et quand on lit, je pense qu'on peut sans trop hésiter élargir. Bien sûr, il y a la loi qui va être lue. En fait, ici, Moïse se trouve juste avant d'entrer en terre de Canaan. Vous savez, Israël était délivré d'Égypte, ils errent pendant 40 ans dans le désert, puis juste avant d'entrer dans le pays de Canaan, Dieu demande à Moïse de rappeler la loi aux Israélites. Hein, Deutéronome, c'est-à-dire deuxième loi, parce que c'est un rappel de la loi qu'on trouve déjà en Exode, et il va la relire. Et à ce moment-là, après, dans le livre du Deutéronome, on va trouver les lois que Israël va devoir mettre en pratique avec une proclamation des malédictions et une proclamation des bénédictions qui y sont liées. Et quand on lit cette loi, et quand on lit aussi le reste de la révélation, le reste de la Bible, eh bien, on est confronté dans notre manière de concevoir la bénédiction, de bien des manières. Il y a ce passage de l'Ecclésiaste qui dit « Mais Seigneur, que je ne sois ni trop riche de peur que je t'oublie, et que je ne sois ni trop pauvre de peur que je doive voler pour vivre et ainsi te déshonorer. » Ah, donc l'idée de se dire « Mais la bénédiction, c'est être immensément riche avec un compte en banque bien fourni. » Oui, 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 on est d'accord, la richesse est une bénédiction, la pauvreté est une malédiction, c'est clair. Mais les choses doivent peut-être être nuancées. On imagine la bénédiction que c'est une vie facile. Et quand on lit la Bible et quand on regarde l'histoire des personnages bibliques, on se dit, mais peut-être que c'est un peu plus compliqué que ça. On pense à Abraham et Lot, à un moment donné, ils deviennent riches, Dieu les a bénis, ils deviennent riches. Ils ont beaucoup de troupeaux, ils doivent se séparer parce qu'il n'y a pas assez à manger pour tout le monde, pas assez d'eau. Il y a des disputes. Alors Abraham prend son neveu Lot et dit « Mais voici, qu'est-ce que tu choisis ? Aller dans la plaine, où la vie est facile, il y a des pâturages, il y a des villes, tu y seras en sécurité et tout. Ou est-ce que tu vas aller dans la montagne ? Choisis un des deux endroits et moi je prendrai l'autre. » Et bien sûr, la montagne, c'est une vie difficile. Il y a moins d'herbe pour les brebis et le reste du bétail, c'est plus difficile de trouver de l'eau, il n'y a pas de ville fortifiée. Lot choisit la vie facile. On pourrait dire qu'il choisit la bénédiction. Et Abraham choisit la vie difficile. On pourrait dire qu'il, d'une certaine manière, le fait d'avoir pris Lot avec lui le conduit à la malédiction. Puis on continue le texte biblique. Et puis on voit que Dieu bénit Abraham. Et que les difficultés sont l'occasion pour Abraham de compter sur Dieu. Alors que Lot se retrouve entouré de pécheurs et se trouve dans une situation qui est vraiment difficile. Hein, vous y connaissez l'histoire de Sodome et Gomorre, au moins de réputation. Ben, finalement, Lot, il va tout perdre. Ce qui aurait dû, à vue humaine, être une bénédiction, s'est transformé en malédiction. Et ce qui aurait dû être une malédiction pour Abraham, s'est transformé en bénédiction. Et il y a encore tout un tas d'histoires comme ça, où on se dit, mais notre conception de la bénédiction doit être revisitée par la parole de Dieu. On voit une autre chose quand on lit son texte. Voilà, je mets devant toi le choix entre la bénédiction et la malédiction, entre la vie et la mort. Si tu respectes mes commandements, tu vivras, et si tu les enfreins, tu mourras. Et là, on a un gros problème. C'est parce que quand on va lire cette loi, on va se dire, mais aïe, 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 hein. Aïe, 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 on ne va pas pouvoir la mettre en pratique. Impossible. On le voit des fois, on fait tout pour essayer que ça fonctionne, pour essayer d'obtenir la bénédiction. Et pourtant, ça ne marche pas, parce qu'on n'arrive pas à faire ce qui est parfaitement juste. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Et je pense peut-être à un exemple. On a la chance de vivre dans un pays où on a des belles infrastructures, des routes, où on a de quoi manger. Et quand on discute avec nos aînés, allez discuter avec vos grands-parents, avec vos arrière-grands-parents, avec d'autres personnes, et regardez comment eux, ils ont vécu. Je me souviens à mon grand-papa qui me racontait, quand il était petit, qu'il devait aller amener les vaches au champ. Et ils n'avaient pas de gourde. Alors des fois, ils devaient boire, ils buvaient l'eau, des flaques que les sabots des vaches faisaient. Et ils buvaient ça. J'ai vécu avec un homme qui avait 100 ans pendant une année, 99 ans. C'est un grand privilège. J'ai eu beaucoup de, vraiment, une belle amitié qui s'est tissée. Et il me racontait, c'était ce qu'on appelait les pieds noirs, il a vécu en Algérie, je crois. Il disait, mais quand il allait au travail, il prenait rien avec lui. Sa femme lui préparait juste de quoi manger, et puis il allait au travail, et puis voilà, après, il allait jamais au bistrot, il allait jamais faire la fête. Et en fait, discuter encore avec Eric, qui est là, notre doyen, aller discuter avec son témoignage de vie, ce qu'il a vécu pendant son enfance, ce qui n'était pas facile. Mais toute cette génération, ils ont travaillé comme des dingues. Et on vit dans un pays aujourd'hui qui est tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui nous ont précédés et qui ont bâti ce pays, qui ont apporté une bénédiction. Et pourtant, malheureusement, on est obligé de constater que cette bénédiction, eh ben, elle n'est pas totale, elle n'est pas complète. Parce que oui, on a un beau pays qui fonctionne bien, mais on a une planète qui est dans un sale état. Oui, on a des lois qui sont bonnes, qui sont justes, mais il y a toujours de l'injustice. Oui, on a un système de retraite qui fonctionne bien, mais pour combien de temps, hein? AVS, s'il n'y a pas de jeunes, comment ça va se passer plus tard? Deuxième pilier, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu des fois les caisses de pension, ce qui se passe, pas très rassurant. Et on voit que malgré nos efforts, malgré ce qu'on met en œuvre pour bien faire les choses, ce n'est pas suffisant pour obtenir une bénédiction totale. Et le Nouveau Testament est très très clair sur cette impossibilité d'obtenir une bénédiction par la loi parce qu'on la transgresse sans cesse. En Galates 3, versets 10 à 14. Galates 3, versets 10 à 14. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi, c'est ce qu'on disait avant, suivre la loi, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ils ne sont pas sous la bénédiction, ils sont sous la malédiction. Car il est écrit, « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » De plus, Il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire « L'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elle ». C'est ce qu'on vient de dire. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et ce texte est absolument incroyable. Pourquoi ? Parce qu'il nous montre qu'aujourd'hui, la bénédiction ne dépend plus de nos œuvres, elle ne dépend plus de la loi, elle ne dépend plus de ce qu'on fait. Mais elle dépend en fait de la grâce de Dieu. Donner sans attendre en retour. Dieu donne sans attendre en retour. Et la malédiction qu'on aurait dû porter à cause de nos mauvaises actions a été portée par Christ. Et ce qui est absolument étonnant, c'est que Dieu ne se contente pas d'évacuer la malédiction. Il y a un jour où il n'y aura plus de malédiction sur terre, quand Christ reviendra. Mais aujourd'hui, elle est encore là. Mais ça ne met pas Dieu en échec, parce que Dieu est capable d'utiliser les malédictions qui nous frappent pour nous bénir. L'exemple le plus frappant, c'est la mort de Christ. La mort, une malédiction. Jésus a été maudit sur la croix, frappé par la plus grande malédiction, la mort. Et pourtant, Dieu a utilisé cette malédiction pour nous bénir. Mais ce n'est pas tout. Dans les difficultés que nous traversons, Dieu peut enlever ces difficultés, nous guérir d'une maladie, nous donner de quoi subvenir à nos besoins dans une situation catastrophique, ou il peut utiliser cette situation pour nous amener plus loin, pour nous amener plus proche de lui, pour nous faire grandir. Il peut utiliser la souffrance pour mieux le connaître, pour mieux se laisser rejoindre par lui. Alors ça, vous allez dire, c'est assez subjectif. Mais j'ai vu des personnes qui étaient malades, et ça les a réconciliés avec des proches. Une réconciliation qui était impensable, inimaginable. Et la maladie a été utilisée par Dieu pour une réconciliation. Et ça, c'est quelque chose, on aura beau faire tout le bien qu'on veut, nous. Si on reste attaché à ce qu'on peut faire, on ne pourra jamais changer une malédiction en bénédiction. Ça, c'est le propre de Dieu. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Parce que nous, on comprend bien que quand on fait le mal, c'est le mal qui en ressort. Alors comment faire ? Comment faire pour saisir ce que Dieu vient nous donner en Jésus-Christ ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début du culte, j'ai lu un texte où il est dit, mais Dieu bénit les hommes et leur dit, soyez féconds. Et dans la Bible, on va trouver toute une série de fois où il y a des gens qui vont prononcer une bénédiction. On peut penser à Jacob qui va bénir ses enfants. On peut penser à Isaac qui va bénir Jacob et pas Ésaü. Enfin, il va aussi le bénir, mais avec une bénédiction secondaire, on va dire. Et c'est des bénédictions qui sont arrivées. Et il y a, au départ de ces bénédictions, une parole qui est prononcée. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez courant dans la culture populaire, dans ce qu'on vit autour de nous, chez nos contemporains, mais un petit peu pour la bénédiction, on va dire que ça émet des ondes positives, mais surtout pour la malédiction. Ah, il existe tout un tas de manières ésotériques pour maudire les gens. Hein, vous pouvez aller voir un marabout, vous pouvez aller voir un sorcier, vous pouvez aller voir un tel qui connaît comment faire les choses. Hein. Vous connaissez ça ? Oui, non ? Je vous ai tous perdus. À un moment donné, quand Israël devait aller en terre promise, il rencontre un roi, je ne sais plus lequel, qui fait appel à un prophète pour aller maudire le peuple. Balaam. Il le paye, et puis Balaam y vient. Puis il est tellement têtu qu'il n'écoute pas du tout Dieu. Mais Dieu, il a décidé qu'il allait faire entendre sa voix. Alors il fait parler son âne. Une des rares fois dans la Bible où un animal parle. Alors des fois, on a la peur de la prendre la parole. Mais s'il a pu faire parler un âne, Dieu peut aussi nous faire parler, je crois. Et puis après, ben Balaam, il n'a pas maudit Israël. Il a béni Israël. Et puis, il y a ce rôle de la parole où on voit quand Dieu crée la terre, au commencement, Dieu dit. Et cela se fait. On voit dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et c'est déstabilisant pour nous qui sommes habitués à faire pour obtenir une bénédiction. Mais on a fait et on n'a pas réussi. Il y a des bénédictions tout à fait et des malédictions tout à fait logiques sur nos vies. Il y en a des qui sont beaucoup moins logiques, comme je disais, des histoires de marabouts, des histoires de poupées avec des épingles, des histoires qui sont étonnantes. On ne comprend pas d'où ça vient. Vous voulez une histoire sur le sujet ou je suis déjà, je vois que c'est déjà 11h10, alors je ne veux pas vous endormir. Alors, enfin, discutez les uns avec les autres. Je crois qu'on a tous entendu des histoires comme ça. Et la parole qui est là, Christ. On a fait, ça ne fonctionne pas, mais on peut s'approcher de Dieu, reconnaissant que nous n'avons pas fait, et dire, mais Seigneur, je te remets mon incapacité à avoir une bénédiction. J'ai besoin que tu viennes m'accorder cette bénédiction, non pas parce que je le veux, non pas parce que je le mérite, mais parce que tu veux m'en faire grâce. Je te demande pardon pour mes péchés, pour toutes les fois où je n'ai pas été à la hauteur. Et cette parole, elle est puissante, grâce à Christ, qui est la parole éternelle. Et ça commence par là. Et Dieu utilise cela, nos prières, les bénédictions qu'on va se dire les uns les autres, les prières pour les autres, comme début de grandes bénédictions. Anne, vous connaissez Anne dans la Bible ? Elle n'avait pas d'enfant. Elle a allé vers Dieu, puis elle a dit, mais je ne peux pas avoir d'enfant, je suis triste. Elle a pleuré devant Dieu. Dieu lui a fait grâce, elle a obtenu un enfant. Et je crois que quand on s'approche de Dieu, il y a vraiment des bénédictions que Dieu nous accorde. Et ça commence par quelque chose d'insignifiant, par la parole. Et je crois que là, Dieu veut nous montrer, mais arrêtez, vous êtes des hommes et je suis Dieu. La bénédiction, c'est moi qui la donne. Reconnaissez que je suis Dieu et que vous avez besoin de moi. Éphésiens chapitre 1. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Jésus-Christ, nous obtenons une vraie bénédiction. Et nous allons tout de suite enchaîner avec la Sainte Cène que nous ne pouvons pas prendre. Vous savez, normalement, on prend la Sainte Cène et puis c'est le moment de marquer, mais oui, nous avons reçu cette bénédiction en Jésus-Christ. Et on prend un morceau de pain, on boit une gorgée de vin ou de jus de raisin, et puis on s'approprie cette bénédiction. On ne peut pas le faire aujourd'hui. Mais on va le faire par la prière. On va se l'approprier par la prière. Et puis je vous propose, si peut-être l'un d'entre vous a une malédiction particulière sur sa vie, qui ressent quelque chose qui est difficile, qui n'arrive pas à s'en défaire, je vous propose de vous lever, puis on va prier pour vous. Tous ceux qui sont autour, on va prier pour vous à distance, et on va prier pour que Dieu change cette malédiction en bénédiction, parce qu'en Jésus-Christ, il y a de vraies solutions. Alors voilà, si quelqu'un a besoin d'être délivré d'une malédiction, eh bien nous allons prier maintenant pour cela. Oui Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. Nous reconnaissons que nous n'arrivons pas par nous-mêmes à obtenir la bénédiction. Seigneur, il y a dans nos actes des mauvaises choses qui amènent la malédiction. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Viens Saint-Esprit, viens Jésus-Christ nous remplir de ta présence. Viens briser la malédiction qui était sur nos vies. Viens la changer en bénédiction. Seigneur, comme le dit ta parole, toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Nous te demandons que ce ne soit pas juste des mots. Nous te demandons que ce ne soit pas juste une belle théorie. mais que la parole en Galates, où tu dis, mais la malédiction a été brisée sur la croix, soit une réalité dans nos vies. La malédiction a été brisée sur la croix et je vous envoie mon esprit. Nous voulons recevoir cet esprit qui nous permettra de vivre une vie conforme à ta parole. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi. Viens nous transformer, viens transformer nos vies. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.